Première préface de 1668.
Virgile, au troisième livre de l'Énéide, c'est Énée qui parle. Litteraque piri legimus, portuque subimus caenio, et quelsam butroti ascendimus urbem. Solamnes tum forte dapes et tristia dona. Libabat cineri Andromache, manesque vocabat ectoreum ad tumulum, viridi quem cespite inanem et geminas, causam lacrimis sacraverat aras. Deiecit ultum, et demissa voce locuta est. O Felix unante alias Priamia Virgo, hostilem ad tumulum, Troiae submenibus altis ius amori. Quae sortitus non pertulit ullos, nec victoris erit et igit captiva cubile. Nos, patria incensa, diversa per aequora vectae, stirpis Achilleae fastus iugenemque superbum, servit Ioen ixae, tulimus, qui deinde secutus, ledaeam Hermionem, lacedaemon iosque immenaeos. Ast illum, ereptae magno inflammatus amore, coniugis, et scelerum furiis agitatus, orestes excipit incautum, patriasque obtrumcat ad aras. Traduction de ces passages du livre 3 de l'Énéide de Virgile. Nous longeons les rivages de l'Épire, nous entrons au port de Chaonie et gagnons la haute ville de Butrote. Le hasard veut alors qu'Andromaque faisait libation d'un repas solennel et de cadeaux funèbres à descendre, invoquait des mânes devant le vert gazon couvrant un cénotaphe dédié à Hector et un double autel qu'elle avait consacré à la cause de ses larmes. Elle détourna son visage et parla d'une voix défaite. Seule est heureuse avant toute la fille de Priam, condamnée à mourir devant la tombe d'un ennemi sous les hauts remparts de Troie, qui ne subit aucun tirage au sort, ni captive ne dut arriver au lit d'un vainqueur devenu son maître. Nous, quand la patrie fut incendiée, entraînée parmi tant de mères, nous, devenues mères en esclavage, avons souffert le triomphe du jeune et prétentieux rejeton d'Achille. Il suivit ensuite Hermione, descendante de Léda, pour l'épouser à Lacédémone. Mais enflammé par la grande passion pour une épouse qu'on lui enlevait, et excité par les furies de ses propres crimes, Oreste le surprit devant l'autel dédié à son père et lui trancha la gorge. Voilà, en peu de vers, tout le sujet de cette tragédie. Voilà le lieu de la scène, l'action qui s'y passe, les quatre principaux acteurs et même leur caractère. Excepté celui d'Hermione, dont la jalousie et les emportements sont assez marqués dans l'Andromaque d'Euripide. Mais véritablement, mes personnages sont si fameux dans l'Antiquité que, pour peu qu'on la connaisse, on fera fort bien que je les ai rendus tels que les anciens poètes nous les ont donnés. Aussi n'ai-je pas pensé qu'il me fût permis de rien changer à leurs mœurs. Toute la liberté que j'ai prise, ça a été d'adoucir un peu la férocité de Pyrrhus, que Sénèque dans sa Troade et Virgile dans le second livre de l'Énéide ont poussé beaucoup plus loin que je l'ai cru devoir le faire. Encore s'est-il trouvé des gens qui se sont plaints qu'il s'emporta contre Andromaque et qu'il voulut épouser cette captive à quelque prix que ce fût. J'avoue qu'il n'est pas assez résigné à la volonté de sa maîtresse et que Céladon a mieux connu que lui le parfait amour, mais que faire? Pyrrhus n'avait pas lu nos romans. Il était violent de son naturel, et tous les héros ne sont pas faits pour être des Céladons. Quoi qu'il en soit, le public m'a été trop favorable pour m'embarrasser du chagrin particulier de deux ou trois personnes qui voudraient qu'on réformât tous les héros de l'Antiquité pour en faire des héros parfaits. Je trouve leur intention fort bonne de vouloir qu'on ne mette sur la scène que des hommes impeccables, mais je les prie de se souvenir que ce n'est pas à moi de changer les règles du théâtre. Horace nous recommande de dépeindre Achille farouche, inexorable, violent, tel qu'il était et tel qu'on dépeint son fils. Et Aristote, bien éloigné de nous demander des héros parfaits, veut au contraire que les personnages tragiques, c'est-à-dire ceux dont le malheur fait la catastrophe de la tragédie, ne soient ni tout à fait bons, ni tout à fait méchants. Il ne veut pas qu'ils soient extrêmement bons, parce que la punition d'un homme de bien exciterait plutôt l'indignation que la pitié du spectateur, ni qu'ils soient méchants avec excès, parce qu'on n'a point pitié d'un scélérat. Il faut donc qu'ils aient une bonté médiocre, c'est-à-dire une vertu capable de faiblesse, et qu'ils tombent dans le malheur par quelque faute qui les fasse plaindre sans les faire détester. »